Eh bien, nous retrouvons notre chroniqueur Mohamed Tiené. Bonjour Mohamed.
Bonjour Xavier.
Alors aujourd'hui, nous allons parler de PIB et notamment de PIB avec les pays africains. Tout d'abord, pour nos auditeurs, qu'entend-on déjà par PIB? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que le PIB?
Ben, le PIB est défini en tout cas par les experts comme le produit intérieur brut d'un pays. Pour être un peu plus précis, le produit intérieur brut d'un pays, par définition, est un indicateur économique permettant de mesurer la production des richesses d'un pays, c'est-à-dire les services et les biens qui sont donc engrangés par le pays comme bénéfices, on pourrait le dire ainsi, c'est-à-dire toutes les entreprises nationales, internationales qui sont installées sur le territoire d'un pays. On essaie de faire donc, si vous voulez, l'ensemble des recettes qui ont été donc recensées par les experts du pays. Et c'est en ce moment-là qu'on parle de produit intérieur brut, ce qui n'est pas à confondre avec le PNB, qui est le produit national brut qui prend en compte les recettes douanières et autres.
En quoi c'est important, justement, cet indice de PIB? Parce qu'on l'entend dans les nouvelles et souvent, et moi je me posais la question, pourquoi c'est crucial?
Ben, si vous voulez, ça détermine la richesse d'un pays, ça détermine ce que gagne un pays, ça détermine le niveau de vie de la population d'un pays donné. Quand vous prenez par exemple l'Afrique, on dit depuis 15 ans maintenant que l'Afrique connaît la plus grande croissance en termes de produits intérieurs bruts. Cela voudrait dire que les pays africains sont très riches et que la gestion des ressources des pays africains se fait de façon acceptable, de façon excellente même. Ce qui devrait normalement permettre à la population africaine de vivre au-delà du seuil de pauvreté qui est $1 américain par jour.
Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe justement, Mohamed? C'est là le problème, c'est que quand on regarde ces chiffres de PIB, on se dit bon, ben, ça devrait décoller en Afrique, mais ce n'est pas le cas. Et pourquoi?
Mais c'est la même question que nous nous posons, parce que quand je prends la France qui est le référent des pays francophones en Afrique, la France est à la recherche d'une croissance d'un point depuis près de 5 ans. C'est-à-dire la France se bat pour avoir une croissance d'un point. Pendant que les pays africains, quand je prends le cas de la Côte d'Ivoire, qui est mon pays, nous avons une croissance de 10%. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire a une croissance de 10%. Mais c'est incroyable que quand on arrive en Côte d'Ivoire avec une croissance de 10%, la population ivoirienne vit très très mal. Nous avons une grande partie de la population ivoirienne qui est très 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 pauvre, qui vivent sous le seuil de pauvreté. À l'instar de la Côte d'Ivoire, il y a d'autres pays comme le Ghana, comme le Burkina Faso, comme d'autres pays africains qui ont un taux de croissance énorme. Alors, ce taux de croissance est évalué par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international qui disent, bon voilà, ces pays ont un taux de croissance. Et d'ailleurs, ils disent que l'Afrique a le taux de croissance depuis 15 ans le plus élevé du monde. Je dis bien du monde, c'est-à-dire que plus que le Canada, plus que les États-Unis. Mais ça ne bouge pas, il y a le seuil de pauvreté. Alors, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce n'est pas une question de gestion des revenus du pays? Où est-ce que on met cet argent-là? Cet argent est utilisé comment? La question est là. Alors, nous avons essayé de faire des recherches. Vous savez, quand j'étais encore en Côte d'Ivoire en tant que journaliste, spécialiste développement durable, j'ai été avec le programme des Nations Unies pour le développement, en abrégé le PNUD, essayer de faire ce qu'on appelle l'étude du taux de pauvreté de notre pays. Le système d'évaluation ne m'a pas paru juste. Ne m'a pas paru juste. Pourquoi? Parce que lorsque nous allons dans un quartier, nous constatons que les gens vivent mal. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans l'environnement n'est pas accueillant, c'est très sale, les maisons sont en bois. Ouais. Mais lorsqu'on entre à l'intérieur de ces maisons-là, vous avez des grosses télévisions, vous avez des climatiseurs, vous avez, enfin, vous avez tout ce que tout ce qu'une maison normale doit avoir. Mm-hmm. Pourtant, et ces familles ne mangent qu'une fois par jour. Mmh. Alors, une fois que c'est comme ça, le programme des Nations Unies retire cette famille du taux de pauvreté. Mais est-ce qu'on s'est posé la question de savoir comment est-ce que cette famille gagne sa vie? Est-ce que l'époux est quelqu'un de qui fait du braquage, qui est un voleur, ou je ne sais quoi, qui vend de la drogue? Il n'y a pas, on ne sait pas de gérer tous ces contours-là. Mmh. Et du coup, on les sort du taux de pauvreté. Ce qui fait que, vous allez voir, on vous dira en Côte d'Ivoire, ah, nous avons 30% de pauvres en réalité. Mais en Côte d'Ivoire, nous avons plus de 50% de pauvres. Mmh. Voilà le problème. Mmh. Donc c'est la mauvaise gestion, en fait, des revenus de ces pays-là.
Mais quelqu'un profite, n'est-ce pas? Parce que quand on voit que la Côte d'Ivoire, par exemple, génère des richesses, mais ces richesses-là, qu'adviennent-elles? Est-ce que parce que tu me dis, bon, 30% des Ivoiriens n'en voient jamais la couleur, en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe alors à ce moment-là?
Mais ce qui se passe, c'est que les dirigeants politiques s'en servent, ils s'en mettent plein les poches, mmh. Ils ouvrent des comptes dans des offshore, ils ont des comptes bien remplis. Imaginez-vous que lorsqu'un chef d'État arrive au pouvoir, quand il arrive, on ne nous dit pas combien il a dans son compte bancaire, quels sont ses biens, ils ne sont pas déclarés d'ailleurs. Mmh. Et quand il part du pouvoir, on se rend compte que l'ex-chef d'État avait des milliards et des milliards, il a des milliards et des milliards dans son compte. Et en ce moment-là, vous comprendrez qu'il est difficile de quitter le pouvoir lorsqu'on arrive à engranger autant de milliards pour la survie, je vais dire, de sa propre génération. Ouais. Voici le problème.
Alors, tu m'as dit que tu as fait des enquêtes. Est-ce que que c'était difficile de trouver vraiment l'information? Parce que j'imagine que cet argent-là ne reste pas nécessairement en Côte d'Ivoire. Il est placé ailleurs, hein?
Oui, cet argent est placé ailleurs, évidemment. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on a connu ce qu'on appelle entre 90 et 91, un moment un peu difficile, au sorti donc d'une élection qui a été organisée à la va-vite. Les choses se sont très très mal passées. Et quand vous regardez aujourd'hui la Côte d'Ivoire, c'était difficile de mener cette enquête parce que les gens n'ont pas envie de parler. Pour ceux qui essaient d'être un peu indépendants, ils sont tout de suite virés de leur poste. C'est d'ailleurs partout un peu comme ça en Afrique. Mmh. Donc du coup, pour mener ce genre d'enquête, il faut aller interroger des gens en coulisses, ne pas dévoiler l'identité. Des experts en économie qui vous expliquent, qui vous disent, ben, écoutez, quand vous regardez un ministre qui a un château, un ministre a un château, un directeur de société qui doit toujours donner de l'argent pour le fonctionnement du parti politique pour pouvoir maintenir son poste, sont des choses difficiles. Vous savez, la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao au monde. Ouais. J'ai dit bien le premier producteur, troisième producteur de café au monde. Donc nous avons, si vous voulez, des ressources naturelles abondante. Le prix du cacao est fixé par l'acheteur extérieur. Même quand le pays fixe le prix, il y a du chantage et on finit par céder. Ouais. Donc au final, je n'arrive pas à comprendre.
Mohamed, est-ce qu'il y a une solution? Parce que j'imagine qu'elle n'est pas facile parce qu'on l'aurait trouvée autrement, mais est-ce que d'après toi, il y aurait moyen de peut-être pas de stopper cette corruption? Parce que bon, l'Afrique n'est pas le seul continent où il y a de la corruption. Mais est-ce qu'il y aurait un moyen, est-ce que tu entrevois un moyen, des moyens peut-être pour remédier à cette situation de corruption et de mauvaise distribution en fait du produit intérieur brut?
Mais en fait, les experts du programme, les experts du PNUD, parce que j'ai travaillé un peu avec les Nations Unies en tant que producteur d'émissions sur le développement humain durable, donc c'est en fait d'investir un peu plus dans la formation humaine. Mmh. Dans la formation humaine, former la jeunesse, construire un peu plus d'établissements, des universités, former les jeunes. Et une fois que les jeunes sont formés, je pense qu'on va passer cette fois à une phase de remplacement de la classe politique existante. Mmh. Parce que la classe politique actuelle, c'est de père en fils. Donc, il faut changer la classe politique existante. Mmh. Et pour changer la classe politique existante, il va falloir qu'on ait, si vous voulez, une jeunesse formée. Et quand on a une jeunesse formée, ce qui va engendrer ou générer une classe moyenne qui va commencer à s'établir. Et une fois qu'on a une classe moyenne qui s'établit, on peut donc créer ce qu'on appelle une balance de pouvoir. Et donc, quand on a une balance de pouvoir ou une balance de force sur le terrain, en ce moment-là, je vais dire, les familles qui aujourd'hui s'imposent aux millions de populations africaines vont devoir donc faire les choses autrement, même si on n'arrive pas à les enlever tout de suite, mais vont pouvoir faire les choses autrement, vont se dire, ben, écoutez, si on ne fait pas attention, il y a une révolution qui arrive, on partirait. Cependant, la révolution violente, je ne suis pas pour la révolution violente, d'autant plus que quand on regarde ce qui s'est passé dans les pays arabes, qu'on a appelé le printemps arabe, ce sont des révolutions qui n'ont pas donné grand-chose. Quand vous prenez l'Égypte, c'est encore des militaires qui sont revenus au pouvoir. Quand vous prenez la Tunisie, c'est encore difficile. En Afrique, quand vous prenez le Mali, le président actuel du Mali était l'espoir de toute une jeunesse. Il arrive aujourd'hui des plus corrompus que tous ceux qui étaient là. Donc, il faut une jeunesse formée. Il faut former la jeunesse de plus en plus. Et en ce moment-là, les jeunes Africains pourront mettre en pratique ce qu'ils ont appris et de la bonne manière.
Oui, c'est donc les Africains eux-mêmes qui ont les solutions. Mais il s'agit de les saisir.
Évidemment, on va pas dire. Vous savez, en Afrique, à chaque fois qu'on a un problème, on pointe du doigt la France, on pointe du doigt les grandes puissances. Mais non, quoi qu'on dise, c'est vrai, tous les pays du monde ont été colonisés. Et chaque pays a pu se défaire petit à petit des jougs de l'ex-colonisateur. Ils sont devenus aujourd'hui des collaborateurs. Donc je pense que l'Afrique peut y arriver. Mais pour que l'Afrique y arrive, il va falloir que les chefs d'État africains, qui ne parlent pas seulement, qui ne fassent pas un discours du genre « il faut couper le cordon ». Oui, ça c'est très intéressant à entendre à la télévision. Mais en réalité, en coulisses, qu'est-ce qui se passe avec les grandes firmes comme Bolloré, comme Maes, qui ont la même mise sur les ports africains. Et les ports africains génèrent énormément d'argent. Quand on vous dit que le port autonome d'Abidjan, la Côte d'Ivoire a deux ports. Nous avons le port autonome d'Abidjan qui est en extension. C'est un port qui fait entrer des milliards et des milliards par jour. Ouais. Alors, pourquoi on n'arrive pas à construire autant d'universités, autant de routes, autant d'écoles pour pouvoir emmener les enfants à l'école? Pourquoi on n'arrive pas à soigner les Ivoiriens de façon décente? Alors, toutes les questions sont là. Mais la réponse, on pourrait dire, OK, c'est la corruption, ils prennent tout l'argent, ils mettent dans leurs poches. Mais oui, est-ce qu'on va s'asseoir pendant encore 20 ans, 30 ans à assister à ça? Je crois que non. Il faut forcer la main pour pouvoir donc amener la jeunesse africaine à prendre le pouvoir autrement, le pouvoir intellectuel. Je pense que tout part du pouvoir intellectuel. Ouais. Quand on prend le pouvoir intellectuel, je pense qu'on aura fait un grand pas.
Voilà, eh bien, on termine sur une note optimiste parce que je suis certain qu'un jour l'Afrique se réveillera et une nouvelle génération viendra faisant les choses différemment. C'est certainement notre souhait, ton souhait, le mien aussi. Eh bien, merci Mohamed.
Je t'en prie, Xavier.
Et nous te retrouvons bien entendu pour une prochaine chronique. Quant à nous, nous restons sur les ondes de Choc FM.